Vous êtes bien en relation avec le répondeur de l'agence Rennaise de l'info bien sourcée. Veuillez déposer votre question, nos meilleurs agents se chargeront d'enquêter au plus près de la mystérieuse et trépidante vérité.
Salut, je m'appelle Marcel Potier de Morpa, et puis bah voilà, je suis confiné comme tout le monde au boulot de 8h à 18h, et puis au Super U hein, de 18h à 20h30. Hein. Mais après, je dois rentrer chez moi, et j'ai pas compris s'il y avait encore le couvre-feu, parce que j'ai qu'une cheminée pour me chauffer et qu'il commence à faire froid. Donc voilà, pouvez-vous me dire si je peux me griller une bûche? Merci.
Ah, le feu, crépitant mystère au croisement de toutes les évolutions à jamais observables sur cette bonne vieille terre. On est légitime à comprendre votre détresse, l'ami Marcel, quand on songe deux minutes à l'importance, au sens humain du terme, que porte ce feu qui vous réchaufferait si bien le soir venu après votre journée de confinement à l'usine. Dois-je rappeler que si aujourd'hui nous avons tout loisir de nous épanouir en vie trépidante, faite de hausse de salaire de 0,1% et de magasins Jiffy ouverts le dimanche, c'est parce qu'un jour, un de nos cousins Homo erectus eut la bonne idée de faire griller son steak de mammouth sur un tapis de braise bien réconfortante, propulsant d'un coup l'espérance de vie de 12 boueuses années à l'ombre d'une mort imminente aux fantastiques 90 qu'on connaît aujourd'hui. Alors autant dire que la mesure de couvre-feu qui va reprendre à partir du « on sait pas trop, déjà on savait pas quand ça avait arrêté » a de quoi faire paniquer. En premier lieu à l'agence, et relativement à votre interrogation, il nous a semblé indispensable de vérifier si la mesure de couvre-feu avait une influence directe sur la combustion des matériaux.
En effet, nos fidèles auditeurs savent bien qu'ici à l'agence, nous avons avant tout l'esprit scientifique. Une petite expérimentation était donc de rigueur. Et pour l'occasion, j'ai fait appel à un spécialiste en la matière, un expert S-combustible et comburant dans toutes les situations les plus périlleuses. Vous devinez peut-être de qui je parle, Lionel.
Ah non, c'est quand même pas ce guignolo de professeur Rao.
Oui, vous avez bien deviné, c'est mon cher ami Albert Grills.
Ah.
Alors, écoutons donc les résultats de son expérience.
T'en as un ?
J'ai un tampon.
Avec du baume à lèvres et un tampon, on peut faire un feu.
Vous êtes sûr que vous avez le bon enregistrement, là, Simon ?
Ben, je sais pas. Enfin, c'est ce qu'il m'a envoyé, en tout cas.
Bon, écoutez, on va pas tergiverser, on a qu'à la faire ici, cette expérience. Tenez, j'ai des allumettes sur moi, là, justement. Allez hop! Ah, ça brûle bien là. Hein. Eh, donnez un truc là pour voir là. Tenez votre papier là, c'est quoi ça? Attestation, machin. Allez.
Eh, attention là!
Wow! Eh, attention, elle est super grande votre flamme là! Mais merde, enfin! Faites gaffe! Regardez ce que vous avez foutu! Ah, mais pouflant dans les quarts d'heure! Putain, merde, merde! Mon bombeur Lacoste!
Ah, putain, ma carte sortir!
Pas grâce, Simon! Saisissez un peu d'extincteur!
Ok, allez!
Go, 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 go!
Putain, mais on a eu chaud. Non, mais vous avez vu comment ce truc-là a flambé ?
C'est clair.
C'est quand même chelou, ça, non ? Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie, personnellement.
Mais moi non plus, Lionel. Bah, ça, c'est un phénomène paranormal où je m'y connais pas.
Bah ouais.
Ah, mais en fait, j'y pense. Est-ce que ce serait pour ça qu'il y a le couvre-feu ?
Ah. En voilà une bien brillante conjecture, collègue Simon.
Mais oui. Autant jadis, la mesure de couvre-feu était destinée à protéger les villes des risques d'incendie. Imaginez, par exemple. Bon, c'est la guerre. Les sympathiques dirigeants qui vous gouvernent se sentent pas capables de gérer un incendie en plus du reste.
Ben
alors,
ouais.
En toute bonne foi, ces bons messieurs vous recommandent de pas faire sauter des châtaignes dans la cheminée le soir, et d'aller vous coucher de bonne heure.
Logique.
Ça, c'est un sacré bon sens. D'autant plus qu'un incendie, figurez-vous que c'est bien souvent causé par des humains qui auraient mieux fait de dormir. Permettez-moi d'ailleurs d'illustrer mes propos par un court encart historico-culturel.
Oh, passionnant, passionnant, très intéressant.
L'histoire de France.
1720. Cette année-là, le budget participatif de Nathalie Appéré dispose du trésor complet de la mairie. En conséquence, Rennes est une ville de cabanons en bois bio local coupé à l'acrobranche de mi-forêt. La ville allait alors connaître le plus tragique incendie de son histoire, qu'on connaît notamment par sa spécificité locale déjà bien affirmée, puisqu'on en doit l'origine à un menuisier de la rue de l'Horloge qui, inspiré qu'il était un beau soir de joyeuse pichetronnade, eut l'idée lumineuse de mettre le feu à son atelier, histoire de voir.
Ah, quelle mort de vie que la mienne! Mon métier est trop chiant! Ces places de parking pour calèche qu'on ne trouve jamais! Et cette putain de marée-chaussée menaçante qui rôde partout! Tristement! Mais quelle connerie pourrais-je bien faire maintenant que je tourne en rond chez moi? Mais, tiens, pourquoi pas fourrer cette bougie crépitante dans la paille?
Oh, mon Dieu, mon Dieu, non! Un combat d'histoire de France!
Eh ben dis donc, c'est passionnant tout ça. Mais alors revenons à nos moutons. Au-delà du couvre-feu, j'ai eu vent de plusieurs faits bien curieux qui tentent à démontrer que la nature même du feu a quelque peu changé. C'est troublant.
Ah oui ?
Je m'explique. C'est dans une crépitante mode nocturne, de jeunes trublions ont pris le pli, semble-t-il, d'expédier diverses fusées direction les étoiles, à Villejean, Clenay ou encore vers le Blône. Le consciencieux canard local Ouest France s'en est fait l'écho outragé, en dévoilant au passage l'étrange mue de ce qui était à la base de simples feux d'artifice du type « troisième mariage de tonton Robert » en terrible mortier de guerre. Tenons-nous là la preuve de tous les dangers de l'époque ? Mais qui donc allait veiller au grain pour éviter par exemple qu'un vieil ivrogne répugnant, un tantinet frileux nous refasse le coup de l'incendie de 1720 ? Ou donc que des jeunes foutent le feu à des poubelles qui se transformeraient magiquement en bombinas hiroshimesques ?
Eh ben justement Lionel, j'ai mené mon enquête, et c'est là qu'on voit que la mairie de Rennes a eu le nez creux quand même. Puisque dès la rentrée scolaire était annoncée une excellente nouvelle, en tout cas pour tous les amateurs d'ordre de proximité et de sécurité de voisinage. Tous les férus de prunes pour tapage nocturne et d'ennuis anti-pyrotechniques. Cette excellente nouvelle, donc, c'était l'annonce du recrutement, d'ici 2 ans, de 40 policiers municipaux supplémentaires.
Wow.
Et alors là, Lionel, laissez-moi vous dire qu'avec une telle équipée, fini la rigolade.
Ouais.
Fini les pétards et les feux d'artifice.
Et, ouais.
Et surtout, pas touche aux poubelles.
Et ouais.
Donc mon cher Marcel, vous êtes bien gentil avec vos histoires de chauffage, mais il va bien falloir que quelqu'un pense à la bonne tenue municipale.
Ah, quand même, quel merveilleux peuple chantant que ces Français de France.
Eh oui, et ça ne s'arrête pas là malheureusement, puisque les effectifs de la police nationale à Rennes se sont également étoffés avec 38 personnes supplémentaires. À vrai dire, il semblerait que le phénomène dépasse largement nos frontières municipales. Et d'ailleurs, le grand projet actuel n'est-il pas celui de la loi de sécurité globale ?
Ah ouais ? On ferait donc face à un phénomène maniaco-sécuritaire de grande ampleur, vous voulez dire ?
C'est ça.
Mais comment expliqueriez-vous ça ?
Eh ben, ma théorie personnelle sur le sujet, c'est que la réalité tout entière ces derniers temps est branchée sur une fréquence vibratoire particulière, celle du rêve humide d'un porte-parole de syndicat de police.
Ah, c'est très très sale.
Eh oui, je vous fais pas dire. Et ça pourrait également expliquer des bugs inattendus dans la structure de l'univers, comme celui qu'on vient d'observer là concernant l'allumage du feu.
Eh ben dites donc, voilà qui illustre à merveille toute l'ambiguïté qui peut se cacher sous les braises d'une temporalité bouillonnante. Et pourtant, c'est pas comme si les sages philosophes, eux, nous avaient pas bien mis en garde. Souvenez-vous, par exemple, de votre oral de bac de philo, Simon.
Il peut faire le bien. Il peut faire le mal. Il purifie ou il détruit. Il laisse derrière lui un goût de cendre.
Le feu.
Bravo.
Ah oui, je me souviens. J'avais même eu une mention.
Ah oui, c'est vrai. Ben, félicitations, mon bon Simon. Et donc oui, voilà, le feu, c'est ça. Hein. C'est le bien, le mal, le yin, le yang, le progrès et la régression, tout en même temps. C'est un espoir porté à bout de bras par le précaire Homo erectus, au chevet d'une humanité que seule l'évolution peut sauver d'elle-même. Mais, de l'autre côté du bon sens, c'est aussi un cauchemar porté à bout de tête pleine d'eau bénite par l'ignoble Homo clericus.
Ah, mais vous faites référence à cette théorie défendue par mon contact au CNRS, celle de l'Homo clericus qui aurait évolué en parallèle de l'Homo erectus.
Oui, exactement.
Alors un instant, on va expliquer pour nos auditeurs. En effet, des recherches scientifiques très sérieuses, dont je vous épargne le détail évidemment, auraient établi que l'Homo clericus, proche cousin de l'Homo erectus, faisait, lui, n'importe quoi avec le feu inventé par ce dernier. et qui s'en servait notamment pour jeter dedans ses congénères qui faisaient pas comme il disait. Ses descendants ont d'ailleurs perpétué assez longtemps cet usage, et encore aujourd'hui, il n'est pas rare de les voir promettre aux flammes de l'enfer tout un tas de nos contemporains.
Ma parole, ça c'est terrifiant.
Eh oui.
Mais d'ailleurs, à ce sujet, il m'a bien semblé voir passer des infos comme quoi des homo clericus défossilisés s'étaient mis à manifester pour réclamer la réouverture de leur tambouillerie à prière.
Mais oui, tout à fait.
Alors bien sûr, eux, ils sont protégés du gros Covid grâce à leur masque béni. Mais vous, vilain mécréant que vous êtes, c'est pas votre cas. J'imagine que vous n'avez pas pu vous rendre en personne pour espionner ces manifs divines, et ça c'est bien dommage parce que j'aurais bien aimé savoir ce qui peut bien s'y raconter.
Ah mais rassurez-vous Lionel, j'avais anticipé le coup. Il se trouve que j'ai envoyé sur place un spybot de ma conception.
C'est-à-dire ?
Eh ben c'est un robot téléguidé, parfaitement indétectable, qui ressemble en tout point à un être humain lambda. En l'occurrence, il était moulé sur le modèle de Xavier Dupont de Ligonnès.
Remarquable.
Il suffit de lui programmer un petit script de conversation, très simple, avec quelques phrases types. En l'occurrence, il y avait par exemple « Gloire à Dieu notre Seigneur », « Un papa, une maman », ou encore « J'ai 5 places pour le Puy du Fou ». Garantie indétectable.
Ah, c'est très impressionnant, mais alors, mais dites-nous quelles informations vous avez pu tirer de ce rassemblement.
Pas de panique, j'ai du croustillant pour vous. En effet, en marge des revendications tristement liturgiques de cette clique à mocassins à glands, mon spybot a pu écouter quelques conversations indiscrètes qui témoignent bien des préoccupations d'une jeunesse qui a le cœur chaud sous les manches croisées d'un pull vert sur les épaules. Écoutez plutôt.
De jeunes qui se disent faut pas coucher avant le mariage, donc je fais tout ce qui est limite avant, tout ce qui est jusqu'à la limite, et puis la dernière limite, je la passe après.
Ouais, c'est
mais
ça.
Qu'est-ce qui est limite avant, c'est-à-dire concrètement des caresses qui sont pas particulièrement très chastes.
Les caresses dont tu parles, il y a un moment, elles doivent arriver.
D'accord.
Avant, tu vois, parce que sinon, en fait, sinon, t'es perdu.
C'est ouais, donc c'est trop d'un coup. C'est comme quand tu ouvres une canette que t'as secouée avant, ça t'explose à la figure.
C'est ça.
Donc voilà, vous voyez, c'est des gens qui se contiennent. Mais à force de se contenir, on risque tout bonnement l'explosion de feu sacré. Et ça, mon cher Lionel, ce n'est pas très couvre-feu friendly.
Oh là 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 là. Eh ben, en voilà une enquête bien touffue.
Eh oui.
Alors pour résumer, l'ami Marcel Potier, 1. L'ambiance actuelle est propice à l'allumage tous azimuts, car l'atmosphère, elle est chelou. 2. La police, elle est censée remplacer les pompiers maintenant. Et 3, les curés sont en feu, et leur feu à eux, il pue l'angoisse et il pue la mort. Non vraiment, mon bon Marcelou, hein, permettez que je vous appelle comme ça, brûler votre bûche en solo dans votre coin, c'est pas l'idée du siècle, c'est bien trop dangereux. Mais comme c'est pas le style de l'agence de vous laisser tout piteux sur le bord de la route de la vie heureuse, on va vous refiler un bon tuyau. Si vous pointiez le museau dehors, ailleurs qu'au Super U, vous vous rendriez compte qu'en fait, il y a pas mal de gens dans votre cas qui, malgré les contraintes de la maladie et le déchaînement antisocial et sécuritaire de la bande patronale En Marche, ont une furieuse envie de se réchauffer auprès d'un grand brasier collectif. Non vraiment, si vous aviez tâté un peu l'ambiance à la manif de samedi dernier contre la loi Sécurité Globale, vous auriez compris qu'on est déjà plus très loin de la grosse bûche géante sur voie publique, la méga bûche qui donne le sourire à tous les cœurs rebelles, la barricade ! Un petit effort, Marcel, et vous n'aurez plus froid, mon ami. Peut-être bien samedi prochain, à la manif prévue à 11h, à République. Alors voilà, espérant avoir éclairé votre lanterne, l'agence rennaise de l'info bien sourcée vous souhaite tout le succès dans tous vos projets.